Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes de cet écosystème en plein essor. Au travers de leurs expériences et leurs projets, on espère vous inspirer et vous donner matière à réflexion pour progresser dans votre découverte de ce territoire encore peu connu. Dans cet épisode, j'échange avec Maxime Coende, le CEO d'Avisio et membre de longue date de la communauté No-Code France. On revient avec lui sur ses aventures entrepreneuriales et surtout le rôle d'un CEO dans la création d'une entreprise. Vous verrez, il y a beaucoup de no-code inclus. Salut Max, bienvenue sur le podcast de Contournement. Je suis très content d'échanger avec toi parce que tu fais partie de la communauté depuis ses débuts. C'est-à-dire pas si longtemps en vrai, mais ça nous ramène quand même à mi-2019, ce qui nous paraît loin maintenant, là, début 2021. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, on s'était rencontré physiquement à un petit atelier Webflow qu'on avait organisé avec Théo. Il y avait genre 7-8 personnes, et franchement, je suis pas sûr que j'aurais cru si on m'avait dit à ce moment-là que dans un an et demi plus tard, on va dire, le Slack dépasserait les 3000 personnes, et puis que là, on ferait ensemble ce 43e épisode de ce podcast. Donc voilà, c'est assez cool, ça fait un petit peu de nostalgie.
Salut Alex, ouais, trop cool de m'inviter. Effectivement, je me rappelle à ce bon souvenir, il me semble que c'est il y a presque 2 ans. Ouais. Il y avait des Pringles et quelques badois, et effectivement, une dizaine de chaises qui se battaient en duel. On sentait déjà qu'il y avait une envie de votre côté de développer et déployer cette tendance, cette mouvance no-code. Donc, je suis heureux d'en avoir pris part dès le début.
Ouais. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de chaises qui n'étaient pas occupées, hein, si tu te souviens.
C'est vrai.
Et franchement, je pense que maintenant, on n'aurait aucun problème à remplir cette salle si on refaisait un événement. Bon, un jour, quand ça sera possible de faire des événements.
Ah ben là,
Trêve de nostalgie, on va parler un petit peu de ton parcours, de ta société actuelle, Avisio, donc ce que vous y faites, et puis la place du no-code là-dedans. Et puis on va aborder un petit peu le sujet de l'emploi dans le no-code, du coup, voilà, qui est aussi un peu une de vos expertises, un petit peu voir qu'est-ce qu'on imagine là-dedans pour les années à venir. Pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Alors, je m'appelle Maxime, je viens de dépasser la trentaine, et je viens d'avoir une petite fille, et ça a son importance en ce moment.
Félicitations.
Pour le rythme, merci. Alors pour mon parcours, j'ai un background product. C'est sûrement ça qui m'aide aujourd'hui à concevoir des workflows product. Donc j'en ai fait 4 ans dans une agence qui développait des applications dans le sport. J'aime bien me rappeler et surtout insister sur cette expérience parce qu'en agence c'est très pressurisant. On était sous-staffé, je gérais une dizaine de clients et surtout j'ai eu l'occasion de dealer avec d'énormes clients comme Canal+, ESPN, Babola, RTL, dès le début, à la sortie de mon stage de fin d'études. Donc, c'était ultra formateur parce que ça m'a appris beaucoup de choses sur l'organisation, la priorisation, comment gérer le stress. Et surtout, j'étais sous le coup du patron, du boss, qui était un entrepreneur dans l'âme, qui s'appelle Jean-Sébastien Cruz, qui m'a pas mal poussé dans mes retranchements, challengé aussi sur le côté perso, parce que je suis un peu un faux timide. Je me souviens qu'au début, j'avais même peur d'appeler les clients, et maintenant, c'est mon quotidien. Donc, grâce à lui, j'ai un peu dépassé ça, et il m'a aussi donné le goût de l'entrepreneuriat, du challenge de bosser à fond pour ses idées. Et mal lui en a pris, parce que ça m'a donné envie de monter ma boîte et de démissionner. Et donc, à l'issue de ces 4 ans d'expérience, il y avait un moment un peu charnière, qui était la Coupe du Monde 2014. Et je m'occupais de l'application officielle, donc gros sujet, gros stress. Et je m'étais dit, à l'issue de cette Coupe du Monde, soit je vais chez l'annonceur, soit je monte ma boîte. Et en fait, j'ai démissionné et j'ai monté Grappi. Grappi, c'est un moteur d'inspiration de voyage qui te permet de trouver toutes les destinations de voyage en fonction de ton budget et de dates.
Donc, par exemple, juste avant qu'on parle plus de ça, parce que c'est une expérience qui est super intéressante, juste ton background, qu'est-ce que tu as fait comme études?
Ouais. J'ai fait un peu un parcours classique, entre guillemets, une école de commerce et, okay. Une Erasmus à Newcastle qui a son importance parce que c'est là où j'ai rencontré mon futur associé sur ma première expérience. Et j'aime dire que cette école, sur le moment, tu as l'impression que tu n'apprends rien. Et en fait, tu te rends compte au fil de l'eau qui t'ont permis de développer un esprit critique, de challenge et un réseau aussi qui me sert aujourd'hui tous les jours. Et aussi sur le plan comptable, les bilans, j'aurais dû pousser le bilan en finance. Voilà, effectivement, à l'issue de l'école, j'ai Donc, j'ai eu cette expérience de product et ensuite j'ai monté ma boîte.
Ok, pardon, point d'interruption. Et donc, ouais, Grappi, tu as fait un super article d'ailleurs où tu parles de cette expérience. Je mettrai le lien là dans les notes. Mais je veux bien que tu nous racontes un petit peu parce que tu en as tiré pas mal d'enseignements, je trouve, de cette première aventure qui t'ont servi après. Donc, je veux bien que tu nous partages à la fois l'aventure et puis aussi un petit peu ces enseignements.
Ouais, carrément. Bon, en fait, donc quand j'ai démissionné, j'avais 24 ans. Et donc, c'était assez risqué, finalement, quand je regarde un peu dans le rétro. Mais je regrette pas un seul instant parce que, en fait, ça m'a pris au trip. Je pouvais faire que ça, en fait. Donc, démissionner et monter cette boîte parce que j'avais cette idée qui me trottait dans la tête. Et en fait, c'était un peu une idée perso. C'est que c'est souvent moi qui organise les voyages entre potes. Et j'en avais marre de passer des heures carrées à trouver la destination qui correspond à tout le monde dans un budget, dans les dates. Et en fait, vu que je suis un peu flemmard, je me suis dit, je vais faire un outil qui me permet d'aller plus vite et de régler des soucis. Donc, j'étais un petit peu déjà dans l'histoire de trouver des automatisations qui me permettent d'améliorer la performance. Bon, même si là, c'est le côté perso. Et en plus, il n'y avait pas de site qui permettait, bizarrement, en une seule recherche, de trouver toutes les destinations de voyage. Et donc j'avais cette idée que j'avais envie de concrétiser, mais je savais que je pouvais pas y aller tout seul parce qu'il me fallait du répondant, il me fallait un regard un peu critique et surtout quelqu'un qui alimente le débat. Et donc je suis allé pitcher cette idée à mon ancien coloc d'Erasmus qui s'appelle Benoît Mouret, qui était à l'époque, il me semble, à Barcelone. Qui travaille à Barcelone et en fait il a eu le culot de croire en l'idée et il est revenu à Paris pour commencer à réfléchir à ce projet-là qui n'était pas évident au début parce que on ne connaissait rien en travel, donc il fallait comprendre comment tu récupérais les data de travel via l'API, comment t'allais construire le front, le back-end, etc. Surtout qu'on n'avait pas énormément de sous et donc là on avait déjà un peu cet esprit no-code, MVP. On s'est beaucoup inspiré des vidéos de The Family, qui, quoi qu'on en dise, sont ultra salvatrices et formatrices, parce qu'ils nous ont donné le courage de nous lancer et ils ont répondu à beaucoup de questions qu'on n'osait pas poser à différentes personnes, on ne savait pas à qui la poser. Parce qu'on était un petit peu les premiers à monter notre boîte dans notre entourage. Et puis on n'avait pas des parents ou des familles entrepreneuriales. Et en fait, on s'est rendu compte, après pas mal de recherches, qu'il y avait qu'un seul provider, un seul fournisseur de données qui pouvait nous répondre à nos problématiques. C'était Skyscanner. Et en fait, en creusant, on s'est rendu compte qu'il fallait telle historique, telle ancienneté pour espérer postuler à leur programme de d'affiliation, ce qu'on n'avait pas. Et donc en fait, c'était soit on arrive à dealer avec Skyscanner, soit le projet est mort dans l'œuf, quoi. Et tué dans l'œuf. Et en fait, avec un peu de culot et de persévérance, on a monté un dossier béton, en montrant les arguments, pourquoi, comment, pourquoi ça n'existait pas, et comment on allait répondre à ces problématiques. Et on a réussi à avoir accès à cette API. Et c'était assez fou parce que à la fin de l'expérience, on était dans le top 50 des sites en trafic chez eux. Donc tout à fait.
Juste par curiosité, c'est quoi leurs critères? Tu vois, enfin. Comment parce que je pense que ça c'est un sujet que les gens voient pas forcément, tu vois. Nous on a des gens qui nous disent oui, des fois on veut faire tel projet, puis ils se rendent pas compte que les données, en fait, ils vont jamais y avoir accès, tu vois, ou pas facilement. Donc je suis curieux de savoir c'était quoi leur prérequis, par exemple.
Le prérequis, il était assez simple, c'était le nombre de visiteurs uniques par mois, et je crois que c'était un truc aux alentours de 100 000. Donc nous on était à zéro parce que le site n'existait même pas.
Enfin, faut que tu leur garantisses que tu as, je sais pas, 100 000 visites pour, enfin, dans la plateforme qui va utiliser leur API, quoi, en gros.
Alors là on était en 2014, donc je sais que leurs guidelines ont un peu changé. Notamment nous, au début de l'expérience, quand le site est sorti, on était rémunéré à chaque clic sortant vers leur partenaire. Okay. Et au cours de l'histoire, ils ont changé un petit peu ça en mettant un autre step. Il fallait que le voyageur ait réservé sur le site partenaire. Donc, ça réduisait notre commission de 90%. Et donc, en fait, c'est cet aléa un peu technique qui nous a un peu poussé à pivoter, malgré le fait qu'on ait près de 50 000 visiteurs uniques par mois sur le site, uniquement avec des techniques un peu de gros hacking. À l'époque, ce qui marchait bien, c'était les groupes Facebook. Donc tous les Français à Madrid, les Français à New York, les Français à machin. Et moi, j'allais poster un message. Hello, j'ai trouvé un site trop stylé qui permet de partir au départ de Madrid. En une seule recherche, ça vous dit où partir. Parce que généralement, quand t'es un peu expat, t'essaies de voyager aux alentours. Mmh. Et ça, tout de suite, ça nous a apporté énormément de trafic. Mais ça suffisait pas parce que tu te confrontais à la concurrence de Skyscanner, Booking, qui dépense 600 000 euros par jour d'AdWords ou autre. Donc, tu fais pas de quoi. Et donc, là vient le moment du pivot. Et ça, c'était le premier enseignement. C'est qu'en fait, il faut pas s'arc-bouter sur tes idées pour s'entêter. Si le projet doit survivre en pivotant, bah, il faut pivoter malgré le fait que tu fasses un peu le deuil de ton bébé, de ton idée initiale. Et donc là, on pivote en B2B. L'idée, c'est d'aller proposer aux aéroports une marque blanche qui leur permet, en tant qu'aéroport, de communiquer sur toutes les destinations qui desservent au départ de leur destination. Donc par exemple, tu vois, sur le quart sud-est, tu as une forte concurrence entre Paris, entre Lyon, Marseille, Saint-Étienne, Genève. Ils se tirent un peu la bourre. Et donc, ils avaient besoin d'un levier de com pour mettre en avant leur portefeuille de destination. Et donc là, pareil, on se confronte à un nouveau marché B2B qu'on connaissait pas forcément. Et en fait, vient un peu un moment charnière, c'est le Blend Webmix à Lyon. Je crois que c'était en 2015. Et je vois dans la liste des participants, je crois que c'était la community manager ou la chargée de com des aéroports de Lyon. Et du coup, je la contacte en disant « Hello, j'ai un projet qui pourrait vous intéresser. Est-ce que ça vous dit d'échanger ?» Et en fait, elle me répond en disant « Bah, ça tombe bien, j'ai mon boss, le directeur digital ou de l'innovation qui est sur place. Essayez de le contacter sur Twitter, je le contacte. » Donc déjà, on utilise un peu les coulisses de tous les outils pour essayer d'avoir un rendez-vous. Et on arrive à le contacter. On le voit à la pause cocktail et on lui pitch ça un petit peu avec des petits fours dans la main. Donc c'était marrant. Et en fait, on fait un petit peu, j'aurais pas à le dire s'il l'écoute, mais un peu à la vérité si je mens, où on lui dit que le site est prêt, alors qu'en fait, c'est presque un PDF animé, où tu ouvres la porte derrière, il n'y a plus rien. Et on arrive à le convaincre, et il nous dit, ok, dans 2 semaines, vous venez à Lyon, parce qu'à l'époque, on était à Paris, vous venez à Lyon, et vous me faites une démo. Et donc là, t'es face à cet enjeu. Et donc là, on a un peu remué celle de terre, pour essayer de trouver des solutions de dev un peu plus rapides. Et donc là, on a essayé de bootstrapper des bouts de code avec un pote qui nous a du coup développé le MVP, qui était simplement un appel API qui te permettait de lister un ensemble de destinations au départ d'une ville avec quelques variables comme le budget ou des variables subjectives comme le soleil ou la mer. Et finalement, ils ont été plutôt conquis. Et en fait, c'est cool parce qu'ils avaient aussi une démarche d'aider les startups à développer leur projet. Et donc, ils ont eu un énorme impact dans la suite de l'aventure.
Et attends, juste pour comprendre, comment les entreprises, elles utilisaient ça? Je reviens.
Tu veux dire les aéroports? Les aéroports, ouais. Ben, en gros, via Skyscanner, en fait, on avait une marque blanche, c'était un moteur d'agrégation de données. Donc, on agrégeait toutes les données de Skyscanner au départ de toutes les villes et à destination de toutes les villes. Et pour chaque aéroport, on leur développait un front bloqué sur la ville de départ de Lyon et bloqué sur leur destination qui desservait.
D'accord.
Et ça
fiche. Enfin, tu vois, c'était genre, c'est un site web. C'était pour les gens qui allaient, qui habitaient à Lyon, par exemple.
Ouais, exactement. C'est pour la zone de chalandise de tous les Lyonnais et aux alentours qui se demandaient où est-ce qu'ils pouvaient partir au départ de Lyon. Ils allaient sur un site qui s'appelait inspirationvoyage.aéroport de Lyon. Et en plus avec des couches un petit peu éditoriales où ils avaient éditorialisé les destinations soleil, mer, fiesta, amoureux, ils avaient des filtres un petit peu subjectifs qui leur permettaient de filtrer encore plus ces destinations.
Ok.
Et donc ça, on a, grâce à cette marque blanche, on a réussi à signer les aéroports de Paris, Genève, Lyon, Marseille. Voilà, donc un super projet. Et en fait, à ce moment-là, on est en train de lever des fonds en friends and family. On était sur le point de lever 300 000 et en fait arrive à ce moment-là un message d'une connaissance de mon associé qui nous dit « Salut, je développe en mode un petit peu garage sous-marin une techno de prédiction qui permet de savoir si le prix de ton billet va augmenter ou pas dans les prochains jours. » Donc là, c'est un peu un autre délire, machine learning, big data, et ils nous proposent de nous racheter avec un projet derrière où on reste dans la boîte avec des responsabilités canon et une supervision. Et là, tu arrives un petit peu, tu as 25 ans, tu as une offre de rachat sur un projet qui te permet de rentrer dans une nouvelle dimension. De l'autre côté, tu es en train de lever des fonds pour ton idée initiale. Ça fait déjà un an et demi, et donc du coup, le chômage qui t'a permis de bosser tranquillement arrive bientôt à échéance. Franchement, c'est un dilemme. C'est un sacré dilemme. On a vraiment beaucoup hésité, on a pesé tous les pour, tous les contre. Et finalement, on a accepté de rejoindre l'aventure, parce que notamment, en plus, c'était une boîte hollandaise, donc tu avais cette dimension un peu internationale. On avait des bureaux à Amsterdam, on découvre une culture, etc. Et donc, on a accepté ce rachat. Il me semble que c'est fin 2015, près. Et donc, assujetti à ce rachat, bah, il y a un côté rebranding. Parce qu'en fait, la personne qui nous a racheté souhaitait s'adosser à une équipe française qui avait lancé ça en France, un peu jeune, qui allait sortir une marque forte dans le travel, l'innovation. Et donc, on sort la marque HelloTrip. Et HelloTrip devient un service une app travel qui te permet soit de t'inspirer pour trouver ta destination, soit pour te dire si le billet que tu as choisi va augmenter ou pas. Et donc, assez fou, parce que là, du coup, on part en R&D, on a des Prometheus qui sont hallucinants sur une dizaine de routes. Donc, une route, c'est une ville de départ et une ville de destination. Sur des Paris-San Francisco, on te disait à 98% de précision si le billet allait augmenter ou pas dans les deux prochains jours. Ce qui était hallucinant, en fait. Et en fait, il y avait une techno qui avait déjà été lancée, et je crois, rachetée par Microsoft ou je sais plus, un mastodonte comme ça, il y a, en 2008. Mais les technos n'étaient pas assez matures à l'époque pour aller plus loin. Et nous, on essayait de surfer là-dessus pour relancer un peu cette innovation. Et donc, en fait, MVP cartonne sur ces routes. Et donc, la prochaine étape, c'est d'essayer de déployer notre techno sur toutes les routes. Et là, en fait, on a besoin de lever des fonds. Sauf que notre associé qui nous rachète, il n'est pas focus, il a une autre boîte. Donc, on loupe une levée de fonds. Il y a un peu d'eau dans le gaz parce que bah, ça nous frustre. Nous, on est à Paris, on est un peu dans les starting blocks. On a marre d'attendre. Bah, du coup, on est cantonné, entre guillemets, à faire un peu de business et d'aller voir les aéroports pour vendre notre service. Voilà. Et en fait, petit à petit, bah, c'est l'un des inconvénients quand tu développes une tech. C'est pas ready tout de suite. Donc, faut prendre le mal en patience, mais ça dure trop. Donc, la flamme s'éteint un petit peu, d'autant plus que je suis très... quand je m'exprime et que j'ai des débats, j'aime bien utiliser tous les mots que nous offre la langue française pour être le plus implicite et précis possible. Et en fait, en anglais, je galère parce qu'il manque de vocabulaire pour faire passer l'émotion et mettre de la nuance ou de l'équilibre dans mes propos. Et donc, je nourris une frustration parce que j'arrive pas à exprimer pleinement ce que je ressens. Tu vois, le débat, je galère à ce moment-là. Et donc, en fait, ça, plus ça fait que en fait, j'en ai marre. Avec mon associé aussi, on se dit, bon, bref, on n'en voit pas le bout. D'autant plus que quand t'es founder, tu fais un petit peu tout. Tu sais pas en quoi t'es bon, tu sais pas si t'es bon, tu sais pas ce que tu veux faire parce qu'on a fait du product, on a fait du business, on a fait du market, de la com, etc. Et donc, arrive un moment, 2 ans après, donc là, on est en milieu 2017, bah, j'éprouve un peu un besoin de me rassurer et de me confronter au marché un peu réel de l'entreprise. Du travail. Et donc c'est la fin de ma première aventure entrepreneuriale avec aucun regret parce que j'ai énormément appris. Bah déjà j'ai vécu un rachat avec une personne d'une culture différente. Donc des négos en anglais, découverte des us et coutumes, etc. Des conseils d'avocat, de fiscaliste, etc. Et puis surtout j'ai fait un pivot, j'ai monté une boîte de zéro, où à l'époque en 2014 je pense que c'était moins facile de monter une startup parce que tu avais moins de contenu, tu avais moins de gens qui l'avaient fait. C'était un petit peu trendy à la mode de le faire. Aujourd'hui limite tout le monde l'a fait et tu demandes
qui ne l'a pas fait quoi.
Ouais.
C'est finalement
sans dénigrer mais c'était vraiment challengeant. Donc on en garde avec mon associé, là on est toujours ultra potes. On garde un énorme souvenir sur un apprentissage un peu perso de tout ça. Et puis, je pense que sans cette expérience, on n'aurait pas eu la suite. Donc, en fait, c'est canon.
Il y a un truc que je note aussi dans ce que tu nous as raconté, qui est effectivement ce qui est cool, c'est d'avoir vécu toutes ces choses différentes. C'est-à-dire que ça n'a pas été un très plat. Je pense qu'il y a déjà peu de startups finalement qui sont juste un long fleuve tranquille. Mais c'est aussi un peu ce culot, tu vois. Je trouve que tu l'as utilisé ça plusieurs fois, tu vois, à différents moments. Ce petit truc de tenter la chance avec des bons arguments, tu vois, aux bonnes personnes, à Skyscanner, à ce gars de Lyon. Et c'est important aussi à avoir en tête, quoi. Sans ça.
Ce que je dis en pro et en perso, c'est que ça coûte rien de poser la question. Et donc, en fait, on a posé énormément de questions à des gens qui nous ont énormément aidés. Tu vois, Skyscanner, on n'arrivait pas à avoir. On pensait avoir cette barrière trop haute et ne pas accéder à ce programme d'affiliation. Et en fait, on a contacté une ou deux personnes de l'équipe de Skyscanner sur LinkedIn. Ils nous ont répondu, ils nous ont dit, les gars, votre idée est trop cool, faites un dossier avec ces points-là, ces points-là, ces points-là, ce qui nous a permis de faire un dossier dont je parlais tout à l'heure. Et c'est en posant des questions, en fait. Pareil, tu vois, j'ai posé la question à la community manager de l'aéroport de Lyon, celle qui m'a dit, il y a mon boss qui vient demain, parle-lui. Effectivement, si tu restes dans ton coin et que tu ne demandes pas de l'aide ou tu n'essaies pas de te renseigner, c'est sûr que les gens, ils avancent, quoi.
Est-ce que tu penses que ça serait toujours possible aujourd'hui, tu vois? Parce que moi, j'ai l'impression que, par exemple, en 2014-2015, tu pouvais avoir un peu plus accès aux gens sur LinkedIn qu'aujourd'hui, où on est tous submergés de trucs automatiques et tout. Mais bon, je sais pas. En même temps, on a quand même des contacts sympas en ce moment sur LinkedIn, mais
c'est vrai.
Je sais pas.
C'est vrai que les gens sont un peu sursollicités. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure sur le recrutement, c'est surtout vrai là-dessus. Quand même, ce contexte aujourd'hui un peu compliqué rend les gens encore plus bienveillants et finalement les gens ont envie d'aider, sont volontaires à donner un coup de main, d'autant plus qu'aujourd'hui on le voit sur Slack de No Code France. Tu poses des questions, comment faire ça en No Code ou comment faire telle feature, et t'as 14 personnes qui répondent. C'est pas obligé, tu vois. C'est une sorte d'entraide open source, parce que finalement ça s'enrichit aussi, ça fait une bibliothèque de contenu. Je pense que l'aide est différente, mais finalement, si t'as envie aujourd'hui de monter une boîte, tu peux le faire si t'as l'envie. Parce que je m'en souviens quand j'ai démissionné, que j'ai monté ma première boîte et que je pitchais la boîte à peu près 250 fois par jour, et que je prenais le téléphone des gens pour qu'ils likent la page Facebook. Il me disait, mais c'est très bien ton idée, je l'ai eu 14 fois, ça n'existe pas. Et en fait, la différence entre ces gens-là et nous, c'est que nous, on s'est lancé. C'est souvent ça qui est la différence, c'est que je dis souvent, t'as une idée, mais lance-toi pas. Parce que, ça peut être que trop tard. C'est jamais trop tôt.
Ça, c'est toujours vrai aujourd'hui, hein, de toute façon, même si effectivement ça devient un peu plus simple de se lancer, il y a quand même toujours, de toute façon, pour les gens, une barrière mentale, souvent. C'est déjà ça le premier truc à franchir, quoi.
C'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, la barrière mentale est en train de s'abaisser parce que les gens se décomplexent en voyant le nombre de gens qui se lancent. Et aujourd'hui, on est quand même en France, dans un pays qui te permet de le faire grâce au chômage. C'est génial. Avec d'autres aides. Et donc, c'est dommage de pas en profiter si on a une idée. Effectivement, il y a peut-être 1000 personnes qui l'ont eu dans le monde. Il n'y a pas 1000 personnes qui vont se lancer. Et dans tous les cas, ce qui fait la diff, c'est l'exécution et le timing.
Carrément. Et je pense que d'ailleurs, tu l'as dit assez justement tout à l'heure, je pense que The Family, il faut leur reconnaître quand même qu'ils ont fait aussi beaucoup pour ça, tu vois. Des fois, je trouve un petit peu avec des raccourcis, mais pour faire tomber ces barrières, leur discours à vraiment parler aux gens, à montrer par l'exemple, avec le Lean Startup, etc., ils ont beaucoup contribué à ça, quoi.
Non, mais clairement, et franchement, quoi, au début, quand tu es devant ta feuille blanche, tu as démissionné, tu montes ta boîte, franchement, quand tu étais en agence et que tu avais 250 tâches à faire dans la journée, et dans tous les cas, tu es obligé de les faire parce que tu as des clients, enfin, tu avais des matchs qui se lançaient et toi, tu avais ton app, là, tu es devant ta feuille blanche, qu'est-ce que tu dois faire? Par où tu commences? Est-ce que tu dois monter ta boîte légalement? Est-ce que tu dois prendre un comptable, un machin? Et en fait, les vidéos d'Oussama et autres te permettaient de répondre à ces questions. La to-do quand tu montes une boîte, Est-ce que il faut lancer sa page Facebook, faire de la com avant de lancer? Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? En fait, plein de trucs qui te permettent de te dire, OK, bah, je fais ça, et puis j'avance petit à petit. Et ça, c'est franchement, je suis fortement reconnaissant. Et puis aussi le fait d'être associé à deux, c'est cool parce que tu te challenges, tu mets un peu des deadlines et tu t'entraides.
Ouais, c'est important. Carrément. Et alors du coup, tout ça t'a amené à une autre expérience. Enfin, il y a eu un petit quelque chose entre les deux.
Je sais pas si ouais.
Tu peux en parler rapidement.
Alors effectivement, je suis à la fin du coup de d'Hello Trip et donc j'ai cette envie de confronter au marché du travail. Donc là, ce que j'aime bien faire et là où je pense être pas mauvais, c'est dans le market. Et donc, je prends une position de CMO dans une startup de la last mile delivery qui s'appelle U2U, qui était un peu le concurrent, enfin, qui est toujours le concurrent de Stuart.
Last mile delivery, c'est
la livraison du dernier kilomètre.
Ouais. D'accord, OK.
Qui, donc, en 2017, les transporteurs, les retailers, le e-commerce cherchent et cherchent toujours des nouvelles façons de livrer plus vite avec cette notion un peu écologique. Je rentre en tant que CMO. À l'époque, U2U avait deux modèles, un modèle collaboratif où en gros tu rentres chez toi et sur ton chemin tu vas prendre un colis et l'amener à ton voisin. En gros, c'était un peu ça. Ça permettait de démultiplier la force de livraison et de brancher le flux des trajets quotidiens avec le flux des livraisons. Sauf qu'en fait, tu te confrontes rapidement au flou artistique et juridique du travail. Bénévole, mais du travail d'amateur qui est pas déclaré et donc je crois que tu avais une limite de 3000 euros par an, etc. Donc en fait le modèle, tu pouvais pas le scaler parce que tu pouvais pas faire des livraisons, tu pouvais pas donner deux colis à quelqu'un. Enfin, du coup là tu es face à un mur un petit peu juridique et même long terme. Et donc on a un petit peu pivoté en allant s'attaquer aux grands transporteurs comme DHL qui est le client historique, qui avait en fait cette envie de déployer une nouvelle force de frappe en centre-ville pour permettre à leurs clients d'avoir des créneaux de livraison de 2 heures le soir quand les gens sont chez eux. Et donc pour ça, on a créé une flotte de coursiers à vélo. À la différence de la flotte des Deliveroo, Uber Eats et tout, quand tu es coursier chez U2U, t'as une tournée, t'as 20 colis dans ton sac, tu sais combien tu vas te faire dans la journée. T'es pas là à lancer ton app et à attendre qu'on sollicite. Donc en fait, l'approche était un peu différente et ça a eu un beau succès auprès des coursiers qui y trouvaient leur compte parce qu'on avait une rémunération plutôt attractive par rapport à la concurrence. Et donc au moins, mon rôle dans tout ça, c'était de rebrander un petit peu la marque, de créer cette notoriété B2C niveau coursier et B2B niveau transporteur et donc de jongler avec un peu ces deux univers. Ce qui était canon sur la première année parce qu'il y avait un peu tout à faire. J'ai aussi digitalisé tous les process et c'est là où j'ai mis un petit peu le pied dans le no-code, où je commençais à faire mes premiers apps. Par exemple, quand on onboardait un nouveau coursier, et ben ton formulaire c'était sur Typeform. Quand il rentrait à la fin de son formulaire, moi j'allais créer automatiquement un dossier Drive dans notre Drive pour consolider toutes ces données en important sa carte d'identité, sa carte vitale, etc. Dans la boucle, ça allait déclencher un mail Mailchimp pour lui demander d'autres infos, etc. Donc, je commençais un peu à créer des workflows sur Zapier. Et en fait, au bout d'un an et demi, j'ai pris le scope de CEO parce que le directeur des opérations est parti. Et donc là, j'ai touché encore plus à la logistique, on va dire terrain, métier, et à la logistique business, ops, process, où j'ai dû encore plus rentrer dans le local. Donc, j'avais cette double casquette market ops. Et toujours ce background product qui m'a aidé, en fait, à un petit peu concevoir les workflows en me posant les bonnes questions sur les utilisateurs, les limites, et la conception. Et surtout la méthode de faire des wireframes, des arbres de décision, etc. Et sauf que, au bout de 2 ans, les vieux démons de l'entrepreneuriat ont ressurgi. Finalement, j'avais envie de remonter sur le vélo pour plein de raisons différentes. C'est que, en fait, j'avais envie de bosser pour mon idée. J'étais pas tout le temps d'accord avec la direction, avec les recrutements, avec plein de choses. Et donc, j'avais envie de remonter une boîte. Sauf que j'avais cette première expérience qui m'a permis de savoir qu'est-ce que je voulais faire et qu'est-ce que je voulais pas refaire. Parmi les différentes choses, je voulais pas que ça soit mon idée. En fait, je voulais que cette fois, on me séduise et qu'on me pitch. Parce qu'en fait, ma première expérience avait été drivée par la passion. C'était voilà une idée un peu perso, passion, que je voulais faire un peu pour m'amuser. Et sauf que je voulais que la deuxième idée, ma deuxième boîte, soit drivée par la raison, par le business. Et sauf que je savais que si ça avait été mon idée, bah, la passion aurait un petit peu biaisé le truc. Et donc, je voulais un peu me détacher de ça. Et je voulais que bah, ça soit quelqu'un qui vienne me pitcher. Donc, c'est quand même pas évident la façon qu'on vient de te la pitcher, tu vois. Parce qu'il faut... Coucou, je suis là, venez me pitcher une idée. Et surtout, je voulais essayer de monter une boîte avec quelqu'un que je connaissais pas. Parce que j'avais déjà monté une boîte avec un pote. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Et je voulais tester l'autre côté. Et donc, ça, c'était quand même compliqué parce que je voulais monter une boîte. Je voulais pas que ce soit mon idée et avec quelqu'un que je connaissais pas. Et donc, à la fin de U2U, bah, j'étais un peu le cul entre deux chaises. Est-ce que je recherche une autre expérience avec un côté un peu entrepreneurial? Donc, je suis allé dans les startup studios, des trucs comme ça, qui me permettent d'avoir un peu les deux, d'avoir l'idée des autres, avoir un peu une stack qui me permette d'aller plus vite. Parce que aussi, je voulais pas partir dans un produit R&D qui mettait 6 mois à sortir. Je voulais vraiment que ça soit business day one, quoi. Et en fait, à ce moment-là, mon associé actuel, Henri, me contacte sur LinkedIn, comme il sait bien faire. On se connaissait pas. En fait, on avait eu un touch point quand on s'était parlé en 2015 parce qu'il m'avait demandé une mise en relation avec quelqu'un que je connaissais, mais pas plus. Et en 2017, en mars, il m'écrit, il me dit « Salut Max, je cherche un associé market ops pour une idée que j'ai dans les RH. Est-ce que ça te tente ?» Et à partir de là, on a échangé, on a daté pro, perso, pour essayer de se connaître sur tous les plans. Et on a fait un truc sympa, c'est qu'on a fait un questionnaire un peu à cœur ouvert. C'est bon, bah, qu'est-ce qui te plaît chez ton associé en face? Qu'est-ce qui te fait peur? Si demain on pose 10 millions sur la table, qu'est-ce qui se passe, etc. On s'est échangé les réponses. Et ce qui est marrant, c'est que ça a matché. En fait, on avait les mêmes.
C'est vachement bien ça. Vous l'avez partagé ça déjà, ce questionnaire?
Non, et on devrait le faire. Il faudrait que je partage un peu ça. Mais en fait, je le conseille à toutes les personnes qui me posent des questions sur la manière de se lancer avec un associé un peu inconnu. C'est ce blind test, je sais pas comment on peut l'appeler, qui permet en fait d'avoir un shot d'infos un peu perso, pro. Parce que ça se trouve, lui, il avait envie de vendre tout de suite, ou il avait envie de se prendre un salaire à 100K par jour. Enfin, tu vois, tu connais pas la personnalité de la personne. Et ça nous permettait vraiment de nous projeter et de savoir quoi attendre en fait de l'associé. Et tout ça, donc voilà, et j'ai rencontré son cercle proche, etc. Et ça a fité. Et donc, on s'est lancé ensemble sur Avisio. Donc, voilà.
Avant qu'on rentre sur Avisio, il y a juste un truc que je note, que je trouve hyper intéressant dans ce que tu as dit. Dans ces trois trucs que tu avais, donc chercher, enfin, monter une boîte avec quelqu'un que tu connais pas, que ce soit l'idée de quelqu'un d'autre, que ce soit pas la tienne, je sais plus ce que c'était, enfin, le troisième, c'était juste de monter une boîte. Je trouve qu'il y a un angle qui est intéressant, qui est l'exécution, finalement. Tu vois, c'est-à-dire que tu as envie de te détacher, enfin, de ce que je comprends, hein, mais justement, je suis curieux d'avoir ton... Moi, ce que je vois, tu vois, c'est l'envie d'exécuter parfaitement une idée. Peut-être qu'elle nécessite que ça soit pas ton idée et que tu connaisses pas la personne qui porte cette idée, enfin au début en tout cas, pour en être un peu détaché, pour pouvoir dire les choses, tu vois, et pouvoir vraiment être focus sur l'exécution, tu vois, peut-être. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment une mentalité peut-être de CEO, je sais pas, enfin...
T'as raison, et en fait, je pense que c'est un peu ça qui nous a manqué sur Grappi, notre première boîte, c'est qu'en fait, il y a des prises de décision qu'on a pas faites par... je sais pas comment, par nostalgie, orgueil, passion. On voulait pas se détacher de notre bébé. Donc, je pense qu'on n'a pas pris les décisions dures. Et le fait que ce soit pas ton idée, du coup, t'as un détachement un peu sentimental, entre guillemets, au début, en tout cas. Et ben, en fait, ça permet d'avoir un regard neuf, objectif et business first, quoi. Ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, on fait pas ça, tu vois. Et effectivement, au moment où je cherchais un projet qui n'était pas mon idée, j'avais pas ce recul là, mais après coup, c'est vrai que ça nous a pas mal servi. Et en fait, aujourd'hui, on est ultra complémentaires. Donc maintenant, je considère que c'est mon idée parce qu'on a enrichi ensemble, et en fait, on a ajouté des nouvelles briques qu'on a réfléchi ensemble. Mais effectivement, au départ, ça a pas mal servi parce que ça nous a permis d'aller assez vite et de faire du business day one, en plus de cette approche no code que j'ai mis en place, qui nous a permis de croître sur la première année sans écrire une seule ligne de code et en économisant énormément d'argent et de temps.
Justement, on va parler de ça, mais dis-nous ce que c'est Avisio, du coup. Quelle est cette idée finalement? Parce qu'on a un petit peu tourné autour, mais c'est cool, ça fait une petite montée justement. Quelle était cette idée de ton associé Henri?
Alors, l'idée d'Henri, c'était de dire, en tant que manager, donc lui, il a eu plusieurs expériences de directeur commercial dans des belles startups, Mon Docteur, Hoist, etc. Et il s'est rendu compte que le recrutement, il a éprouvé que le recrutement, c'était ultra compliqué, que ça devrait rester un levier de croissance. Et en fait, finalement, c'est souvent un risque opérationnel parce que personne n'est formé à faire du recrutement. Les managers ne le sont pas. C'est souvent pour hier. Faire un entretien, c'est compliqué. Et surtout, dans tout le process, tu peux avoir des biais, donc des biais cognitifs. Donc, tu peux être sujet inconsciemment à des sentiments qui vont aller à l'encontre de ton jugement qui devrait être impartial. Entre les soft skills et les hard skills, il s'est rendu compte que dans des entretiens, si la personne t'est sympathique, si elle fait du sport que t'aimes, si elle supporte ton club, et ben en fait tu vas occulter potentiellement ces lacunes, et tu vas pas aller être aussi méchant ou exigeant que tu pourrais l'être avec une autre personne. Et donc il s'est dit, j'ai envie de créer un service qui permette aux boîtes de dérisquer le recrutement et d'enrichir leurs décisions. Et donc, la première idée, c'était de monter un service d'assessment qui allait permettre à nos clients d'auditer les hard skills de leurs candidats par une personne extérieure dans l'entreprise. Et donc, pour amener un peu l'innovation de service et pour avoir un prisme un peu différenciant, on a monté un réseau de managers. Donc aujourd'hui, il est constitué de 400 personnes. C'est que des top managers et des C-level dans les belles boîtes de la French Tech et maintenant un peu même d'ailleurs, qu'on va solliciter pour justement permettre à nos clients d'auditer les compétences métiers de dérisquer leur recrutement. Et ces clients-là font appel à nous pour deux raisons principales. L'objectivité, donc soit parce qu'ils se sont déjà trompés, soit parce qu'ils veulent trancher dans une shortlist, ou soit parce qu'ils veulent avoir un regard extérieur. On va leur permettre d'avoir ce manager opérationnel externe métier qui va avoir ce regard complètement désintéressé de l'issue et qui va dire le candidat, il est bon là, mauvais là, ou il faut qu'il s'améliore ici. Ou alors, ils font appel à nous pour la technicité, c'est-à-dire que tes deux founders, t'as un founder qui est plutôt commercial et l'autre un peu plus tech, ils recrutent leur premier CMO, ils n'ont pas les compétences market pour analyser les recrues, et ils vont faire appel à notre réseau et on va leur mettre dans les pattes le CMO de Ready, le CMO de Conto, qui va permettre en fait d'auditer les compétences de leur founder. Donc l'idée, c'était vraiment de permettre aux boîtes de prendre la bonne décision et de recruter le bon candidat pour eux.
Ok, super intéressant. Et alors comment s'est passée l'exécution justement de ça?
Alors au début, si je fais un petit peu la timeline, donc il a fallu constituer des documents d'évaluation. Donc déjà, il a fallu réunir un pôle d'experts, donc de managers, essayer de trouver quels sont les skills importants pour chaque métier et de trouver quelle est la meilleure façon pour tester chaque skill. Donc ça a été le jeu de plusieurs ateliers. Et une fois qu'on avait fait ça, on se retrouvait avec une liste de skills, une liste de questions qu'on a du coup consolidées dans les documents, donc plus simplement sur GDoc. Et après, il a fallu trouver une façon de mettre en musique le client, le candidat et l'expert. Donc c'est une sorte de jeu de danse à trois qu'il fallait orchestrer. Et le plus simple aurait pu être de développer une plateforme de mise en relation avec un dashboard qui permet à l'expert d'avoir l'ensemble des questions qu'il allait poser au candidat, le candidat a un accès visio qui permettait, etc. Sauf que là, on aurait dû développer et on était parti pour 6 mois de dev. Et en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que tout était faisable grâce au no-code. Et donc pour ça, j'ai beaucoup potassé les différents blogs de personnes qui l'ont fait. J'ai regardé par exemple la vidéo de Comet qui avait fait 500K de CA avec Bubble et Airtable par exemple. Et à ce moment-là, je me suis dit allez, je me lance aussi, on va essayer de faire mieux qu'eux, faire plus de chiffre d'affaires en local. Et donc, j'ai creusé l'ensemble, en fait, j'ai listé l'ensemble des touch points et des actions nécessaires dans le workflow. Donc, par exemple, la prise de contact.
Les interactions avec les candidats.
Et avec le client et avec l'expert.
Ouais. Ok. Plusieurs parties, ouais. Donc, ça fait un workflow assez complexe, quoi, entre les différentes parties prenantes.
Ça fait un workflow assez complexe. Et donc, j'ai listé l'ensemble des interactions et des touch points nécessaires pour que le workflow se déroule bien. Et pour chaque point, j'essaie de trouver la meilleure application et la meilleure façon de faire avec les outils qui m'étaient mis à disposition. Et donc, pour ça, si je te fais un peu le workflow en version no code, le client, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, parce que il est robuste. Le client va saisir son mandat sur Typeform. Dès lors qu'il saisit son mandat, un peu comme chez U2U, eh ben, je vais instantanément créer un dossier dans mon drive qui va consolider la job description, le mandat et d'autres informations qui sont nécessaires ensuite pour la suite. Ensuite, moi, je vais lui proposer une liste d'experts que je sens pertinent pour son business et qui potentiellement vont être capables de l'aider sur l'assessment. Et en fait, dès lors qu'il choisit son expert, il me transmet les coordonnées de son candidat. Et là, automatiquement, avec un jeu de vue sur Airtable, je dis dès lors que un assessment a un expert associé et un candidat associé, alors je vais déclencher un email automatique au candidat qui va lui dire « Salut candidat, Avisio a été mandaté par nom et prénom du client pour t'auditer sur le nom du poste. Pour cela, on te met en relation avec l'expert qui te propose de prendre rendez-vous dans ce lien Calendly et de faire ce business case. » Et en fait, toutes les composantes et variables de cet email sont récupérées via Airtable. Ensuite, le candidat réserve un créneau dans l'agenda de l'expert. Ils se rencontrent en visio sur un échange de 45 minutes. L'expert va compléter la scorecard que j'ai générée automatiquement via un template avec Zapier et Glock. Et ensuite, une fois qu'elle est faite, il faut que je l'envoie au client. Et ça, c'était la tâche la plus chronophage. Parce qu'il fallait aller sur le Glock, le mettre en PDF et l'envoyer au client. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui suis assez flemmard. Et dès que je fais quelque chose deux fois qui me prend plus de deux minutes, je l'automatise. Et en fait, ça a été la tâche la plus compliquée parce qu'il fallait trouver un moyen automatiquement de générer un PDF à partir d'un GDoc. Et en fait, pour ça, j'ai trouvé un petit trick avec Zapier. Donc, si les gens écoutent et galèrent là-dessus, en gros, il faut prendre l'event Google Print qui va permettre de transférer un GDoc en PDF et ensuite te permettre d'exposer ce PDF et de le mettre en pièce jointe d'un mail. Okay. Une fois que j'ai trouvé ce petit trick, eh ben quand je cliquais sur Airtable, j'avais un champ envoyé au client, oui. Et ben en fait mon ZAP se déclenchait et allait chercher le bon GDoc, le mettait en PDF, créer un email automatique avec la bonne phrase, etc. et mettait en pièce jointe ce rapport. Voilà. Et en fait aujourd'hui un assessment me prend 3 minutes. Et donc aujourd'hui on en a fait un peu plus de 200. Et ça nous prend vraiment très peu de temps. Alors, il y a certaines limites quand même au low-code, c'est que tout mon workflow est un petit peu basé sur la sémantique du job. C'est-à-dire que le candidat est une recrue pour tel poste. Si jamais il y a une virgule ou un caractère qui n'est pas respecté, et bien en fait, mon ZAP ne va pas reconnaître un petit limite de poste parce qu'il va faire une recherche sur ce nom précis. Et donc, c'est un peu ces limites quand, par exemple, un client me demande un assessment en anglais, ce qui n'est pas prévu. Et ben en fait, vu que je vais traduire la scorecard, le Zapier ne va plus la reconnaître. Donc en fait, il faut que je fasse parfois les trucs manuels. Mais ça vaut largement le coup par rapport au fait de l'avoir.
Puis j'imagine que tu l'enrichis au fur et à mesure. Du coup, chaque fois peut-être que tu dois le faire manuellement une première fois, ça te permet ensuite d'enrichir. Enfin, moi je trouve que c'est bien des fois de. Enfin, de toute façon, on peut pas faire le workflow parfait dès le début, tu vois. Et des fois, il faut laisser des petits cas. Et quand ils se présentent, faire à la main, et puis après les.
Alors, ouais. Quoi. Ce que je faisais, c'est que, vu qu'à côté, j'ai quand même pas mal d'autres missions, j'avais ce côté un peu de priorisation. C'est que si ça arrivait qu'une fois, je ne le faisais pas. Et si j'avais le sentiment que beaucoup de clients allaient demander la même chose, je passais du temps pour le faire. Parce que finalement, le low-code, il faut quand même bien le penser et bien le faire pour pas qu'il y ait de répercussions ou de débordements à droite ou à gauche. En fait,
ouais, il faut peut-être se faire une petite règle qu'il faut le faire, il faut qu'il y ait une troisième fois, par exemple, pour se dire, OK, j'investis le temps d'automatiser, ouais. Ou des choses comme ça, mais c'est intéressant. Ouais.
Et en fait, cette partie no code m'a permis de voir et d'éprouver ce modèle et de savoir qu'est-ce qui manquait. Et si jamais je développe une plateforme en vrai code, ben, je sais exactement ce que je dois faire et pas faire. Voilà. Et en fait, l'assessment, du coup, ça a été le premier service. Et en fait, on s'est rendu compte avec Henri que bah, ça n'allait pas servir nos ambitions parce que le volume n'était pas forcément là et le marché non plus. On allait faire, je sais pas, 250 000 euros de chiffre d'affaires. C'était pas la vision qu'on avait de la boîte. Et en parallèle, on avait énormément de clients actuels et prospects qui venaient nous voir en nous demandant de l'aide pour trouver des candidats, pour les aider dans le sourcing de leur talent. Sauf que, on n'avait pas vocation à faire un cabinet de chasse et au début ça nous intéressait pas forcément et en fait on l'a refusé une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Et en fait au bout d'un moment on se dit bon bah quand même c'est bizarre et t'as une demande marché, t'as des clients, enfin des prospects, du coup t'as un problème, t'as un pain. Et donc on s'est posé, on a respiré un grand coup et on s'est dit ok, on a cet asset du réseau qui devient un réseau unique parce qu'on a, je pense qu'on a un manager dans toutes les boîtes du FT 120. Donc en fait, on a un pied un peu de partout. On sait que ce réseau-là a un réseau aussi énorme. Donc c'est presque un réseau infini entre guillemets. On a cette demande client, donc ce pain. Bah c'est parti quoi. Écoutons le marché. On a un petit peu pivoté. En fait, c'est pas un pivot parce qu'on a rajouté cette brique. Et en novembre 2019. On a lancé notre première brique de chasse de tête. Et en fait, à la différence près qu'on ne fait pas, on ne chasse pas. La Visio est un cabinet de chasse de tête qui ne chasse pas parce que tous les candidats qu'on va présenter à nos clients sont issus de la recommandation des managers de notre réseau. C'est la grande force qu'on met dans ce secteur-là, c'est qu'on a envie de dépoussiérer un petit peu et de changer un peu le prisme. C'est-à-dire que nous, on va se mettre plutôt du côté des candidats. Donc l'idée c'est de dire on a un réseau unique, on va essayer d'accéder à leur réseau pro perso pour identifier des talents qui a priori ne cherchent pas encore ou qui sont en début de recherche. Et donc ça nous permet d'avoir une exclue sur l'info, d'autant plus qu'on a l'intime conviction que les meilleurs talents ne les cherchent pas, mais grâce à nos managers on les trouve. Voilà. Et donc en fait on a lancé ce cabinet de chasse porté par un réseau manager qui nous permet d'avoir d'infos en exclu, d'avoir un marché caché de candidats et à côté d'avoir un marché caché de jobs parce que on s'est constitué un club de clients qui nous fait confiance et qui, grâce à nos conditions commerciales attractives, n'ont pas énormément de freins à bosser avec nous et sont ultra curieux d'avoir des pépites qu'on présente régulièrement. Et en fait, le no-code m'a encore aidé à ce niveau-là parce que quand j'ai lancé ce service de chasse de tête, on pouvait prendre de plein de bouts différents. Est-ce qu'on prend un CRM, est-ce qu'on développe une plateforme, etc. Parce que tu avais une notion de présenter une shortlist, de présenter un mandat, de faire un job board, etc. Et donc, encore une fois, je suis passé par mon ami Zapier, qui m'a permis, avec Airtable, Typeform, Gdoc et Gmail, de créer des documents de mandat automatisés et finalement de me créer mon propre CRM et mes propres shortlists. Et en fait ça m'a permis les deux premiers mois d'éprouver un peu le modèle et de savoir qu'est-ce que j'allais chercher parce que je savais bien qu'avec la vision et l'ambition qu'on avait il fallait que je m'équipe sur un CRM qui allait me pérenniser et consolider mes données et sécuriser. Et donc grâce à mon no-code j'ai un peu titillé toutes les limites de ce modèle là et j'ai pu me dresser l'ensemble des listes et des features mandatory pour mon prochain CRM. Et donc aujourd'hui je l'ai trouvé grâce à ça. Et aujourd'hui, ce CRM, je l'enrichis tous les jours avec des notifications et des règles métiers que je déploie grâce à Zapier. Donc en fait, Zapier est encore au cœur de mon réacteur. En fait, toutes les lacunes métiers que n'a pas mon CRM, je les comble grâce à Zapier. Et ça, c'est assez fou. Tu vois, par exemple, quand on crée un nouveau mandat chez un client, pour que toute la boîte soit au courant, je mets une notice sur Slack. Par exemple, quand on veut présenter un candidat à un client, au lieu de prendre à chaque fois 3 minutes pour faire un email, salut client, je te présente candidat, et ben j'ai fait un email automatique via Zapier. En fait, c'est autant de petites tâches chronophages qui sont à faible valeur ajoutée que j'automatise, qui permettent à nos talent managers, en fait, de prendre plus de temps avec nos clients et plus de temps avec nos candidats pour créer les conditions d'une belle aventure. Voilà.
Génial. Bah écoute, c'est hyper intéressant. Et je pense qu'on a bien vu un peu comment le no-code vraiment vous a aidé à se lancer, à exécuter et tout. Du coup, j'aimerais bien passer sur le dernier point, s'il nous reste plus beaucoup de temps. Un peu toi, ta vision, du coup, j'ai envie de dire, maintenant que t'es dans vraiment ce métier du recrutement, du sourcing, du recrutement, est-ce que, alors je vais poser direct quelques questions, je vais te laisser élaborer, mais est-ce que tu vois un peu des demandes autour des métiers, autour des technologies no-code? Est-ce que tu penses qu'il y en aura dans 2 ans? Est-ce que tu as des conseils peut-être pour les gens qui se lancent aussi, tu vois, là-dedans, pour se vendre? Enfin, peut-être ça peut être une deuxième question, mais voilà, enfin, un petit peu le tour d'horizon.
Alors aujourd'hui, je remarque pas chez les clients, je vois pas de poste ouvert typiquement sur no-code. En revanche, il y a une certaine norme qui se met en place chez les clients dans leurs exigences et dans leur recherche, c'est qu'ils attendent à ce que les recrues, les candidats, aient une sorte de panoplie d'outils qui leur permettent d'être plus performants au quotidien. Donc, par exemple, sur un gros hacker ou un acquisition manager, ils vont attendre à ce que la personne soit à l'aise à gérer FundBuster, soit à l'aise à gérer Zapier, connaissent parfaitement Slack, connaissent parfaitement la notion d'aller pas scraper, mais d'aller exploiter une URL LinkedIn par exemple, de tester des outils comme Lemlist. En fait, ils cherchent plutôt ce mindset un peu débrouillard et autonome qui est rendu possible par les outils no-code en fait. Et donc ça devient presque une norme. C'est-à-dire qu'ils ont ce côté débrouillard, mindset un peu explorateur. Ça, c'est certain.
Ça va être beaucoup dans les métiers des ops, j'ai l'impression. Enfin, c'est marrant, tu vois, parce que moi, j'ai vraiment vu ce truc. Enfin, on a tous vu, je pense, tu vois, tous ces métiers. Moi, je viens du dev, donc j'ai vu les DevOps arriver. Là, on a eu il y a 2 épisodes, les BizOps de chez Tiller qui nous ont parlé de leur métier. Il y a des grosses ops, c'est toi qui m'en as parlé d'ailleurs, je crois. J'ai même entendu parler de design ops, tu vois, des mecs qui vont chercher tous les outils pour les designers. Et c'est peut-être ça, en fait, finalement. Il n'y a pas le monocode dedans, et c'est pas grave, mais il y a un boulevard, j'ai l'impression, un peu autour de
ça. Ouais, mais je pense qu'effectivement...
Autour des outils, quoi, et du mindset, comme tu dis.
Je pense que le no-code, c'est un mindset plutôt qu'une discipline. C'est vraiment de te dire, j'arrive à mes fins en interconnectant ou en choisissant le bon outil. Et pour choisir le bon outil, il faut tester et il faut avoir cet esprit critique de « Ok, cette feature, elle me sert, mais est-ce que sur l'étape d'après, elle me permet de le faire ?» Ah bah non, et bah du coup, je comble ce manque avec un Zap ou avec un Tagroma ou autre. Après, ça permet aussi aux entreprises, à nos clients, d'être plus agiles dans les tests parce qu'ils vont permettre de tester des side projects intrapreneurio plus facilement. Au lieu de dépenser des sous tout de suite dans une agence de dev ou en recrutant des devs, ils vont tester ça un petit peu de leur côté. Et une fois qu'ils ont un peu ce MVP interne fait réaliser grâce à ce mindset et à des outils no-code, ils déclenchent des budgets.
Ça, c'est quoi un bon moyen pour un candidat de montrer ce mindset, à ton avis?
C'est une bonne question.
De ce que tu vois, peut-être, je sais pas, je pense que c'est pas évident, hein. Justement, c'est pour ça d'ailleurs que je la pose, mais
un peu comme à la manière des designers et autres, c'est d'avoir un portfolio ou d'avoir fait un site ou d'avoir fait un side project. Par exemple, avec Webflow, tu fais en 2 secondes, tu fais un website. On l'a énormément vu au début du premier confinement, notamment sur le Slack no code où beaucoup de gens ont créé des sortes d'annuaires ou des sites qui permettaient de trouver des centres de dépistage, qui permettaient de trouver des zones où il y avait des masques, qui ont développé des applications sur Glide en 2 secondes. Il faut le consolider, il faut pas avoir peur de personnellement de le mettre en avant sur son LinkedIn, parce qu'aujourd'hui c'est une force de pouvoir créer des side projects qui marchent en termes business ou pas, parce que ça permet de rassurer le recruteur que que t'as pas peur du challenge et que t'as pas peur de créer, de tester, de jeter, de refaire. Ça, effectivement, je pense que c'est intéressant.
Ouais, carrément. On arrive sur la fin. C'est hyper intéressant et je suis sûr qu'on aura l'occasion de s'en reparler peut-être, je sais pas, dans un an, on va voir justement tout ça mûrir, parler peut-être des nouveaux métiers qui arriveront, ou en tout cas l'évolution là, de tout ce qu'on vient de décrire. Pour finir, j'ai une petite question, justement, tu parlais de side project, si on demande ça à tous nos invités, est-ce que toi, tu as une idée de un petit side project, un truc que tu ferais avec des outils no-code?
En fait, j'aimerais bien me faire un side project perso, qui me permettent d'organiser un peu mes tâches quotidiennes perso qui sont chiantes à faire, gestion du budget, centralisation des documents perso, un peu ce que permet Notion en fait.
Ouais.
Sauf qu'aujourd'hui je suis tellement accaparé par trouver des petites bidouilles pour la visio que finalement j'ai plus d'espace libre dispo pour réfléchir du side. Là, mon petit side project, ça va être mon site pour mon mariage que je vais faire avec Webflow, je pense, où je vais m'amuser à faire un formulaire assez facile et des relances automatiques quand nos amis les invités n'auront pas répondu.
Bah voilà, ouais, quand même un bon usage d'automatisation dans la vie perso.
Ouais. Ouais. Et après, j'ai un side project entre guillemets chez Avisio, c'est que la nouvelle étape de croissance chez nous, ça va être de productiser notre écosystème. Je te le fais en triangle, tu as les clients, les talents et notre réseau. Et l'idée, c'est de permettre à ces trois entités de nous permettre d'aller plus vite, plus loin. Et donc là, j'ai besoin de développer un vrai produit. Et c'est un peu un side project en interne, même si c'est du code. J'ai, grâce à toute mon expérience no code, éprouvé tous les process pour savoir qu'est-ce qui me manque et comment développer le truc bien tout de suite. Voilà. Et encore, je te dis ça, avec l'agence de dev, il y a certaines features qui ne sont pas possibles avec l'API, j'ai encore des pansements Zapier qui me permettent de déclencher des automatisations. Donc, il est toujours là, mon ami.
Ouais, bon, bah, c'est parfait. Bon, c'est bien, en plus, comme ça, tu nous as donné une petite preview de votre feuille de route, puisque c'était une de mes questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Écoute, super, merci pour tout. Où est-ce qu'on peut te suivre? T'es sur le Slack de NoCode France, donc pour continuer la discussion là-bas.
Je suis sur le Slack de NoCode France, je suis sur Twitter, et ajoutez-moi sur LinkedIn sans problème. Et puis, si vous avez envie de changer de challenge pro et de trouver un nouveau taf, venez nous voir sur Avisio. On est dispo sur Paris et on a lancé Avisio Région, qui permet en fait d'exfiltrer les talents parisiens qui veulent quitter Paris mais qui veulent pas quitter leurs ambitions, ou même les talents locaux. Mais l'idée, c'est de placer toujours ces candidats dans les meilleures boîtes ambitieuses. Voilà.
Cool, super. Bah, bon courage pour tout ça. Je pense que c'est... Il va y avoir de la demande et il va y avoir besoin de tout ça.
Ah bah ouais, en ce moment, ouais.
De ces talents. Merci beaucoup.
Merci,
Alex. Je n'ai pas plus en retard et puis à très bientôt alors.
Salut, bye. Merci beaucoup.
Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu surtout. Alors si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de NoCode France et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Vous me disiez ce que vous avez pensé de l'épisode. Et puis si vous avez des questions, pourquoi pas. Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie peut-être de maîtriser un petit peu plus ces outils NoCode, si c'est pas déjà le cas, hein, peut-être que vous êtes déjà un expert, eh bien, n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io. Vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi un expert ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.